à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Loris Chavanet, je suis historien. Je vais vous parler de mes recherches sur l'histoire politique de la Révolution française, menée dans le cadre d'une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales et publiée en 2017 chez CNRS Éditions, sous le titre « 95, la terreur en procès ». Ce travail a été récompensé par le prix Histoire 2018 de la Fondation Stéphane Bern, Institut de France. En évoquant ce nom, en citant cette fondation, moins d'une semaine après le terrible incendie qui vient de ravager Notre-Dame de Paris, je ne peux qu'être ému et apporter ici mon soutien indéfectible à la Fondation du patrimoine pour l'immense chantier qui a déjà commencé pour rebâtir notre cathédrale. Quelle est l'origine de mon travail? Après avoir fini mon droit à l'université Panthéon-Assas, j'ai pris contact avec Patrice Guénifet, directeur d'études au Centre d'études sociologiques et politiques de l'EHESS. Afin de savoir s'il vous l'acceptait de diriger un doctorat. Je voulais étudier la justice politique sous la Révolution française et cibler alors en priorité une recherche sur le procès des dantonistes. Mais Patrice Guénifet eut la maestria de m'orienter plutôt vers la période thermidorienne et du directoire, qui commence avec la fin de la terreur et l'exécution de Robespierre en juillet 1794. On y reviendra, je l'espère. Près de 6 années de doctorat, sans financement public, je précise, ont été nécessaires pour mener des recherches en archives, rédiger une somme dont est extrait donc l'ouvrage en question, 95 la terreur en procès, sur lequel je vais vous toucher un mot à partir de maintenant. Mais peut-être une précision en guise d'amitié, puisque je remercie l'Institut de France, créé en 1795 justement, de me permettre de présenter ces travaux. L'originalité de la recherche, donc. La période thermidorienne commence, comme son nom l'indique, avec la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, on est en 1794, mettant progressivement fin à la terreur. La Convention nationale renouvelle le gouvernement et donne une impulsion nouvelle aux institutions, au personnel révolutionnaire, à la révolution elle-même, devrait-on dire. Pendant 15 mois, de juillet 1794 à octobre 1795, qui marque l'entrée dans le directoire, le gouvernement demeure révolutionnaire jusqu'à la paix, c'est-à-dire qu'il s'autorise à prendre toutes les mesures d'exception nécessaires. Malgré la continuité donc indéniable qu'il y a entre l'an 2 et l'an 3, la fin de la terreur marque un temps nouveau de la vie politique française que j'ai désiré étudier. C'est le même régime politique en apparence, mais le contenu change radicalement. La sortie de la terreur interroge directement la question de la sortie de la Révolution. Pour le dire autrement, c'est un nouveau départ pour la Révolution, mais c'est aussi et surtout une nouvelle fin possible pour la Révolution. Comment sortir de la terreur? Comment terminer une révolution? In fine, la période thermidorienne, chose fondamentale, prendra fin avec de nouvelles élections en octobre 1795. Les temps qui s'ouvrent donc avec Thermidor ne sont en effet pas ceux d'une simple révolution de palais qui aurait eu lieu en un jour et en une nuit, avec la chute et la mort de l'incorruptible. Thermidor, c'est donc avant tout un changement qui a des origines et s'inscrit dans la durée. On renoue avec le temps long, comme l'a expliqué l'historien polonais, majeur sur cette période, Bronisław Baksko, disparu depuis. Le retour au modèle de la révolution bourgeoise de 1789, donc à partir de d'août 1794, est un nouvel élan porteur de promesses anciennes. Au fil des luttes politiques, renouveler le projet de parvenir à sortir de la Révolution par la porte libérale, comme le suggère Pierre-Auzan Vallon. Les thermidoriens ont compris que l'on ne pouvait plus gouverner le pays de la même manière depuis la fin de la Terreur. Il a fallu donc repenser la place de l'individu dans la société, le rôle du citoyen dans l'État et le statut des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires dans les institutions républicaine. Repenser le pouvoir pour mieux l'adapter au temps et aux mœurs, ce 18e siècle des Lumières, c'est la tâche que l'histoire a assignée aux hommes qui prennent en main le gouvernement après la terreur, c'est l'enjeu de 95. La révolution ne se termine pas, contrairement à ce qu'a écrit l'historien romantique Michelet, au contraire, je crois qu'elle recommence. J'emploie donc une formule choc pour qualifier ce moment fort. La révolution est morte, si l'on peut dire, vive la révolution. Son histoire continue, sa fin n'est pas pour sitôt. J'ai voulu mettre l'accent essentiellement dans ce travail universitaire qui a conduit à la publication de l'ouvrage sur la thématique de la justice politique. Puisque j'avais fini mon droit, puisque je désirais travailler la question du droit en révolution, je me suis exercé à penser le gouvernement révolutionnaire comme régime d'exception confronté à l'idéal d'un état de droit qui tire ses origines de la révolution comme je le pense. Et en effet, si les excès du gouvernement révolutionnaire que la notion de terreur exprime sont diminués à partir de 1794, le principe même d'un régime d'exception fort, centralisé et autoritaire ne s'évanouit pas. Ne pouvant sauter des mains l'arme judiciaire que représente le tribunal révolutionnaire, fameux, son institution est maintenue, bien que ses règles soient changées et sa marche assouplie. La justice est donc toujours révolutionnaire, mais ce n'est pas la même révolution. Il s'agit d'une justice révolutionnaire qui doit être la dernière, puisque la révolution doit bientôt finir. On l'espère. On met en place une justice transitoire, qui est la recherche d'un équilibre entre la nécessaire violence répressive et le respect de la liberté individuelle. Est-ce conciliable? C'est la question que j'ai posée. La République thermidorienne apparaît alors comme une période de transition entre la terreur et la construction d'un ordre constitutionnel que sera le directoire. Ainsi que toute période charnière, elle emprunte au passé et ébauche déjà le programme de la future République. Le temps des réformes est alors venu. Un mot prononcé à la tribune de la Convention, le 11 Fructidor en deux, cela correspond au 28 août 1794, mot de Tallien, qui avait été rappelé de sa mission à Bordeaux pour son modérantisme, comme on disait alors, va servir aux thermidoriens de ligne directrice au milieu de leurs épreuves. Quel est ce mot? C'est le suivant. La justice est à l'ordre du jour. Rien de vraiment nouveau à vrai dire dans cette formule, et pourtant, elle ne sonne pas creux aux hommes de 1795. Rien de transcendant dans cette phrase toute simple. Néanmoins, elle fait battre les cœurs à l'unisson. Elle va faire le tour de la France. C'est là où se trouve dorénavant la nouvelle légitimité révolutionnaire. Tallien, l'épigone de Danton et Desmoulins, à la verve imagée et énergique, emporte le message. Il ne faut pas sous-estimer alors, dans cette période charnière, cruciale, brûlante, le poids des émotions dans ces appels à une autre justice par la société civile et les politiques. Il y a en effet une sentimentalisation de la parole publique, ainsi que des récits de la terreur par les victimes de celle-ci. La justice, en 95, est un sujet qui passionne. C'est aussi une passion avec les excès que cela comporte. Cette faconde de la justice à l'ordre du jour et de la restauration d'un ordre légal est aussi une rhétorique maniée habilement par les thermidoriens, non sans une certaine dose d'hypocrisie bien sûr, afin de s'auto-légitimer comme sauveur de la liberté et porteur des idéaux de la Révolution. Appel aux Lumières, liberté de la presse, liberté religieuse, lutte contre l'arbitraire, restauration de la primauté du droit, ces réformes thermidoriennes sont significatives et j'ai voulu les étudier de près. Avec le désenchantement que causa la terreur, les thermidoriens ont la volonté de réenchanter la Révolution, la réinvestir de l'idéal de 1789. Il s'agit alors d'interroger la valeur et les limites de ce discours qui risque de prendre le pouvoir au piège des exhortations trop généreuses. Dans cet ouvrage, donc, j'ai mis l'accent sur quatre éléments déterminants, selon moi. Premièrement, du point de vue toujours de la justice politique en révolution, j'ai mis l'accent sur la réforme du tribunal révolutionnaire. Celui-ci continue, comme je l'ai dit, mais il est réformé. Pour en finir avec la démesure, la loi est redéfinie. Et puisque la loi peut mal faire, comme la terreur l'aurait démontré, il faut éviter que la loi ne fasse trop mal. Elle doit poursuivre un idéal de modération, de vertu à taille humaine. Tout est affaire de compromis, du moins dans les vœux que formulent les hommes de l'an III, surtout en matière de répression politique. La maxime romaine, ne quid nimis, règne, elle signifie « rien de trop ». Le tribunal révolutionnaire donc de 1795 est réformé, renouvelé, son personnel est changé. Élément majeur, près d'une semaine après la chute de Robespierre, le fameux décret du 22 Prairial organisant une justice expéditive est aboli, annulé. Désormais, les droits de la défense reprennent de l'envergure devant cette justice d'exception. Ces droits de la défense permettent non pas de pouvoir faire appel, certes, mais permettent en tout cas de pouvoir citer des témoins à décharge devant le tribunal, permet de s'exprimer longuement devant une justice avec jury et la nécessité de prouver l'intention criminelle de l'accusé. Cette intention criminelle va souvent faire défaut dans la preuve. Il y aura donc un grand nombre d'acquittements devant le tribunal révolutionnaire, qui n'est plus une machine à épuration, comme c'était le cas dans la période qu'on a qualifiée de grande terreur précédente. Réforme du tribunal révolutionnaire donc, étudiée de près, dans le discours, dans les lois, dans les jugements. Tribunal révolutionnaire qui va permettre, une fois qu'il est renouvelé, de traduire devant cette institution les boucs émissaires de la terreur, ceux que l'on juge coupables de crimes au temps de Robespierre. Je pense en partie à Carrier, le fameux auteur de noyades à Nantes, fameux mariage républicain, auteur de massacres dans l'ouest de la France. Il est jugé avec ses complices devant le tribunal révolutionnaire et exécuté, place de la Révolution, en décembre 1794. De même, Fouquier-Tinville, le célèbre accusateur public, est jugé. Lui aussi a le droit de se défendre. Il cite de nombreux témoins à la barre. Plusieurs centaines de témoins sont auditionnés. Fouquier-Tinville est aussi condamné à mort et exécuté. Les procès de la terreur révèlent cette dimension philosophique, globalement, de l'époque thermidorienne qui produit une pensée individualiste des droits de l'homme, que ce soit en matière de réparation ou de répression des excès de la terreur. Pour les dirigeants de l'an III, les procès de la terreur sont l'occasion de faire l'apologie de cet humanisme charrié par la révolution des droits de l'homme et de claironner tout haut un des enseignements de la terreur. Si le droit naturel existe, tout est permis. Cela signifie que la loi, qui peut passer outre les bornes de la morale, doit être soumise à l'impératif catégorique de respecter des droits imprescriptibles, universels et sacrés, parmi donc les droits de la défense. Réforme du tribunal révolutionnaire premièrement, procès de la terreur deuxièmement, enfin politique de réparation, comme je l'ai suggéré, majeure en 1795, et qui permet de bien comprendre, du moins sous un jour nouveau, la période et son gouvernement. Plusieurs mesures sont fameuses et devaient être davantage mises en exergue. Je pense à la révision des jugements rendus arbitrairement au temps de la terreur. Je pense à la redistribution des biens aux parents des victimes de jugements arbitraires. Je pense aussi à l'amnistie accordée en Vendée aux royalistes qui débouche sur le traité de Lajonnais de 1795, 17 février 1795, qui est un traité de paix entre royalistes et républicains, entre blancs et bleus. Enfin, toujours dans cette logique de réparation des maux soufferts au temps de la terreur, on assiste à la réintégration des Girondins survivants dans l'enceinte de la Convention nationale, et on célèbre même une fête dédiée aux martyrs de la Révolution, avec une réhabilitation des Girondins et de certains dantonistes, comme le plus fameux Camille Desmoulins. Enfin, dans ce travail, j'ai voulu mettre l'accent sur des événements qui sont étonnamment peu enseignés et qui sont pourtant majeurs. Je pense au soulèvement populaire de Prairial, 1795, en mai 1795, et à celui de Vendémiaire, en octobre 1795, deux soulèvements armés mettant en péril les institutions et leur personnel, réprimés par l'armée. L'armée, désormais, intervient en politique sous le jour d'une justice militaire appelée à prendre le relais de la justice révolutionnaire. Nous sortons de la justice révolutionnaire idéalisée comme populaire, nous entrons dans un pragmatisme plus militaire, vous le comprenez, qui va amener progressivement Napoléon à être légitime d'une certaine manière, dans sa prise de fonction en Brumaire. Le 9 Thermidor n'a donc pas fini la révolution. Le combat d'idées, le combat d'hommes, le combat concernant une vision du progrès, oppose toujours les Français. C'est pourquoi la révolution thermidorienne appartient à l'histoire de la révolution qu'elle continue et contribue à comprendre. En 1795, on tourne une nouvelle page de l'épopée commencée en 89, même si, il faut le dire, l'idéal révolutionnaire est écorné pour de bon après l'expérience de la terreur. La République thermidorienne est l'enfant mal aimé de la Révolution, une période en demi-teinte composée d'éléments disparates qui appartiennent autant à l'esprit conservateur de la législative de 1791 qu'à la dynamique exceptionnelle du gouvernement révolutionnaire. Ce n'est plus cependant l'idéal révolutionnaire de l'égalité qui prédomine, c'est désormais l'idée d'une démocratie qui doit mettre en balance, sans interruption, si possible, les principes de liberté et d'égalité, le pouvoir de l'État et celui de l'individu, afin de parvenir, par la découverte de cet équilibre, à maintenir la République dans ce que j'ai nommé le cercle du possible. En abandonnant ce que la Révolution avait d'absolu, sa part d'idéologie, les thermidoriens ont voulu mettre un terme à l'absolutisme révolutionnaire que la dictature de salut public des Jacobins aurait incarné. 1789 s'est construit sur les ruines de l'absolutisme monarchique de la même manière. La République de 1795 a été édifiée sur les ruines de l'absolutisme de l'an 2, qu'on appelle la Terreur. La Révolution de Thermidor ne pouvait que continuer la Révolution française et renouer avec les principes de 89 pour une simple raison. C'est que la Terreur, au lieu de finir la Révolution, l'avait au contraire condamnée à se renforcer sans cesse et à renaître de ses cendres. Sa fin devait inévitablement s'accompagner d'un retour aux origines de 1789, quand la nation demandait une constitution, la liberté et la démocratie. Après la chute de Robespierre qui mit fin à la terreur, on ne pouvait faire l'économie de l'analyse des moyens en révolution, car on comprit que la médication ne devait pas être pire que la maladie. Après Thermidor, l'esprit du gouvernement est révolutionné. Il n'est plus question de dire que la fin justifie les moyens, mais au contraire d'affirmer que les moyens justifient la fin. Cela tranche radicalement avec le gouvernement précédent et part du raisonnement suivant, puisqu'une fin extrême nécessite des moyens extrêmes et que ces moyens extrêmes sont eux-mêmes pernicieux puisqu'ils font haïr la révolution par certaines couches de la population, il est donc nécessaire de revoir les ambitions du pouvoir à la baisse et d'ajuster les moyens si l'on veut sauver la révolution. Pour le dire plus simplement peut-être, les thermidoriens ont voulu proportionner la fin aux moyens qu'ils étaient capables d'employer. Il fut donc question d'aller chercher dans l'idée d'une perfectibilité des moyens de la révolution l'outil par lequel on allait faire croire dans ses valeurs et faire adhérer aux idéaux de 1789. N'allez point injustement à la justice, avertissait Bernardin de Saint-Pierre. Il se trouve là le cœur de la révolution de Thermidor. C'est dans cet esprit de modération de la fin républicaine poursuivie que se trouve la clé de la modération des moyens employés. En un mot, les moyens de gouvernement devaient être la preuve éclatante que la terreur avait disparu. C'est la fameuse période thermidorienne de la réaction contre la terreur. Les moyens devaient faire aimer la République et la Révolution au lieu de les rendre impopulaires. Notre société actuelle, aujourd'hui, est issue de cette société née en 1789 et repensée en Thermidor, dans laquelle les moyens légaux et pondérés du gouvernement constituent le cœur du régime. Puisque l'on parle de moyens, on parle de la place accordée à la liberté individuelle, cela va de soi. Thermidor est donc bien une révolution. Ce n'est peut-être pas encore en l'an 3 une révolution de la liberté, parce que l'état d'exception est prorogé, mais c'est à coup sûr une révolution vers la liberté, à coup de procéduralisme. Aujourd'hui, certes, le procéduralisme est une notion froide, ambiguë. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est une garantie pour les libertés individuelles. Une conclusion s'impose, la République thermidorienne a certes été une révolution, mais une révolution qui a échoué. Elle a voulu mettre un terme à la révolution, mais elle n'y parvint pas. La République de Thermidor a réussi à naître sur les ruines de la terreur, mais elle n'a pas réussi l'épreuve de la durée qui seule donne à un régime la légitimité nécessaire. La mission de terminer la révolution fut donc remise à un autre jour, on l'appellera Brumaire, et en d'autres mains, ce sera Bonaparte.